Le médecin des pauvres, première partie, chapitre 5, où il est parlé du jeune homme aux cheveux noirs, du jeune homme aux cheveux blonds et de la justice du capitaine l'accusant. Diable, diable, murmura l'espinassou. S'il était mort, voilà qu'il ne ferait pas mon affaire. Mais après une seconde de réflexion, il ajouta. Allons donc, est-ce qu'on meurt pour si peu de choses? Le drôle est évanoui ou fait semblant de l'être. Nous allons lui venir en aide. Un geste du chef expliqua à ses compagnons le sens précis des dernières paroles qu'il venait de prononcer. Ce geste avait désigné successivement le corps inanimé de pèlerin et la table sur laquelle se trouvait le chapeau de l'espinassou. Le capitaine coiffa sa tête crépue de ce chapeau dont un étroit galon d'or, un signe du commandement, entourait la forme. Les gris soulevèrent le malheureux paysan sans connaissance. Ils l'étendirent sur la table et ils l'attachèrent solidement au moyen de cordelettes, dont l'un d'entre eux, qui remplissait auprès de l'espinassou l'office de trois échelles et de petit André auprès du bon roi Louis XI, dont l'un d'entre eux, disons-nous, était toujours amplement muni. Pèlerin continuait à ne donner aucun signe de vie. « Allons !» s'écria l'espinassou en se levant de l'escabelle qu'il n'avait pas quittée depuis le commencement de l'épouvantable scène qui précède. « Allons ! Il est temps de faire respirer des selles à ce pauvre diable !» Le même sourire, ou plutôt le même hideux rictus dont nous avons déjà parlé, commentait cette phrase et la rendait horriblement significative. L'espinassou tira de sa ceinture un long couteau catalan et s'approchant du paysan, il se mit avec la pointe de ce couteau à dessiner sur sa poitrine des figures bizarres, en ayant soin que l'acier pénétrât seulement de quelques lignes dans la chair. Le sang ruisselait, les gris regardaient faire, ils trépignaient d'aise et battaient des mains. Soudain, la pointe du couteau rencontra un muscle. Sans doute la douleur fut atroce, car Pèlerin ouvrit aussitôt les yeux, comme un cadavre qu'on soumet à l'action de la pile de Volta. Et en même temps, des profondeurs de sa poitrine ensanglantée, s'exhala un gémissement sourd. « Eh bien ? » fit l'espinassou. « Nous voilà donc réveillés, mon brave homme. Nous sommes plus vivants et mieux portants que jamais, n'est-ce pas ? La mémoire nous est-elle revenue ? Savons-nous où est l'argent ? Savons-nous où est l'accusant ? Savons-nous où est Varose ? Savons-nous où est Marquis ? Et nous déciderons-nous enfin à dire tout cela à notre bon ami l'espinassou ? » Les lèvres du paysan s'agitèrent, mais elles ne produisirent aucun son. Seulement, au mouvement de ses lèvres, le tortureur devina que la force seule avait manqué à Pèlerin, pour répondre une fois de plus. « Je ne sais pas. » L'espinassou grinça des dents. Une rage indicible s'emparait de lui. « Ah, tu ne sais pas » répéta-t-il. « Ah, tu ne sais pas !» Et la lame de son couteau s'enfonça de 2 pouces dans le bras droit du malheureux, qui poussa un rugissement de damné. « Sais-tu maintenant ?» demanda l'espinassou. « Non, non, non !» cria Pèlerin avec désespoir. « Je ne sais pas, je ne sais pas !» L'espinassou perça le bras gauche comme il venait de percer le droit, et de nouveau il demanda « Sais-tu maintenant ?» Et de nouveau Pèlerin répondit « Je ne sais pas !» Une pâleur livide envahit le masque blafard et couturé de l'espinassou. La fureur de cet infâme tortureur arrivait à son paroxysme. Sa main puissante aux doigts carrés aux phalanges velues, s'approcha de la gorge du paysan, qu'il eut un instant l'idée d'étrangler. Mais il fallait que Pèlerin parlât avant de mourir. La main de l'espinassou retomba. « Il doit y avoir des fagots ici, » dit-il en se tournant vers ses compagnons. « Cherchez ces fagots et apportez-les. » 2 des gris saisirent une racine enflammée qui pouvait leur servir de torche et commencèrent une perquisition dans la maison. « Déchaussez cet homme !» ajouta le capitaine en montrant Pèlerin dont les jambes pendaient en dehors de la table. Cet ordre était facile à exécuter. Le paysan n'avait aux pieds que des bas de grosse laine et de lourds sabots. En ce moment, les routiers rentrèrent, en apportant un énorme fagot d'épines sèches qu'ils avaient trouvé dans le cellier. Ils ne demandèrent même pas ce qu'il en fallait faire, tant leur habitude de ces sortes d'exécutions était grande, et ils jetèrent les épines sur le sol, sous les jambes nues de Pèlerin. L'espinassou, qui venait de remettre à sa ceinture le couteau ensanglanté dont il s'était servi, prit la racine ardente des mains de l'homme qui la tenait et dit au paysan. Je t'interroge pour la dernière fois. Écoute et réponds. Où est l'argent? Où est ton maître? Où est le colonel Varros? Où est le curé Marquis? Et penché sur Pellerin, qui semblait râler son dernier souffle et qui saignait par toutes ses blessures, il écouta avidement. Le paysan ferma les yeux et garda le silence. L'espinassou attendit pendant quelques secondes, puis sans ajouter un mot, il se baissa et il glissa la torche sous les épines desséchées qui s'embrasèrent comme de la paille. En moins d'une seconde, la flamme pétillante enveloppa les pieds et les jambes de Pellerin. C'est en ce moment que le misérable poussa ce cri aigu, vibrant, épouvantable, ce cri d'agonie dont nous avons parlé plus haut. Il fit pour se soulever un si violent effort qu'il rompit à moitié les cordes qui le retenaient, et tout en se débattant, il murmura « Éteignez ce feu ! Éteignez ce feu ! Je dirai tout !» D'un coup de pied, l'espinassou dispersa dans la chambre les épines enflammées. Pellerin, d'une voix qui s'affaiblissait à chaque parole, continua « Pour l'argent et pour l'accusant, je ne sais pas, mais Varros et Marquis sont à... » Il n'eut pas le temps d'achever. Le châssis et les carreaux de la fenêtre volèrent en éclats, et le jeune homme aux cheveux noirs, un pistolet d'une main, sa longue épée de l'autre, tomba plus rapide que la foudre au milieu des gris stupéfaits et épouvantés. Son premier coup de feu abattit un homme, et son épée flamboyante comme celle de l'archange Raphaël en cloua un second sur le rebord de la table. Puis, sortant saignante de la poitrine qu'elle venait de trouer, recommença son moulinet formidable, enveloppant la main qui la faisait agir dans une mouvante et infranchissable muraille d'acier d'où s'échappaient d'instant en instant de mortels éclairs. L'un des gris essaya de se jeter à plat ventre sur le sol, comme s'il était blessé, afin d'arriver en rampant jusqu'à ce terrible et mystérieux agresseur, et de le frapper traîtreusement de bas en haut. Mais le jeune homme avait deviné cette manœuvre, et au moment où le routier n'était plus qu'à 3 pas de lui, il lui cassa la tête avec son second pistolet. Il ne lui restait plus désormais que 5 adversaires à combattre, mais parmi ceux-ci se trouvait le géant l'espinassou, qui à lui seul valait 3 hommes, sinon pour le courage, du moins pour la force. L'inconnu s'était adossé à l'embrasure de la fenêtre ouverte, afin de ne point courir le risque d'être surpris par derrière. En outre, il fermait ainsi la retraite au routier, qui, nous le savons, avait verrouillé la porte, et qui, dans l'inexprimable confusion d'un pareil moment, ne songeait point à la rouvrir, et ne l'aurait peut-être pas pu, car cette porte se trouvait dans le rayon du cercle étincelant que décrivait l'épée vengeresse. Un des gris, cependant, s'efforça de franchir le cercle. Il tomba pour ne plus se relever. Les 3 autres perdaient la tête. L'espinassou, au contraire, reprenait un peu de sang-froid et se rendait compte de la situation. « Il est seul !» s'écria-t-il, « et nous sommes 4 !» Tuons-le comme un chien. À mort, à mort. Et il fit feu de ses 2 pistolets à la fois, mais ses mains tremblaient et il n'atteignit point l'inconnu. Misérable, lui dit ce dernier. Ah, je te connais bien. Tu es l'espinassou. Tu as la férocité du loup et tu as aussi sa lâcheté. Tu ne sais tuer qu'à distance. Mais viens donc ici près de moi, fer contre fer. Viens donc. Et si quelque chose qui ressemble à un cœur bat dans ta poitrine velue, montre-le. Et comme l'espinassou ne venait point à lui, il s'élança vers l'espinassou. Le bandit n'avait pas fait un pas en avant, mais il soutint sans reculer le choc de son formidable ennemi. Alors, une lutte presque corps à corps commença entre ces 2 hommes, dont l'un dominait l'autre de toute la tête, quoique le nouveau venu fût de haute taille. Mais nous savons déjà que l'espinassou était un colosse. L'inconnu attaquait avec une rage et avec une impétuosité dont aucune expression ne saurait donner une idée exacte. La pointe de son épée voltigeait comme un feu follet de la poitrine au visage du géant. Et tout ce que pouvait faire ce dernier, c'était de parer avec sa lourde rapière ses coups multipliés qui se succédaient aussi rapidement que les éclairs dans un ciel orageux. L'espinassou était perdu si dans ce moment il se fût trouvé seul avec son adversaire. Car réduit à se tenir sur la défensive, il n'aurait pu longtemps empêcher la pointe foudroyante d'arriver jusqu'à son cœur. Il le comprit. Et pour la 2e fois, il cria aux 3 hommes qui lui restaient. « Mais lâche, gredin que vous êtes, venez donc à mon aide! Vous voyez bien qu'il est seul, assommez-le par derrière !» Les gris à ces mots reprirent courage et se ruèrent à la fois sur l'ennemi commun, non pas comme des hommes, mais comme des loups enragés. Le combat devenait inégal. Enfermé dans un cercle de fer et forcé de se défendre à la fois contre 4 épées, le jeune homme luttait encore, mais il sentait avec désespoir qu'il allait être vaincu. Sa respiration s'embarrassait, une sorte de voile s'étendait devant ses yeux et rendait ses coups mal assurés. Son bras s'engourdissait, des tintements sinistres emplissaient ses oreilles. « Ah !» se dit-il, « c'est le glas de mes funérailles. Voici la mort qui vient. Mais du moins je me coucherai dans une tombe ensanglantée. » Et par un suprême effort, il frappa l'un de ces coups terribles dont étaient si prodigues les héros des romans de chevalerie du Moyen-Âge, et il renversa à ses pieds l'un des routiers, la tête fendue jusqu'aux épaules. L'Espinassou et les deux autres reculèrent. Cette trêve ne dura qu'une seconde. Ils voyaient bien tous trois que les forces de l'inconnu étaient épuisées. Ils voyaient bien qu'il commençait à chanceler et que son épée frappait le vide avec des mouvements irréguliers et pour ainsi dire convulsifs. Ils revinrent à la charge en poussant un hurlement de triomphe. Le jeune héros recommanda son âme à Dieu et il attendit la mort. Au lieu de la mort, ce fut le secours qui vint. Depuis le dehors, une voix cria « Courage, j'arrive !» Un homme bondit par la fenêtre ouverte, fit feu de ses 2 pistolets, tua l'un des gris et, mettant l'épée à la main, se plaça à côté du premier combattant en disant à l'Espinassou « Nous voici 2 contre 2, viens si tu l'oses !» Mais l'Espinassou n'osa pas. La fenêtre, devenue libre, offrait une voie à la fuite. L'Espinassou en profita. Il s'élança hors de la maison et disparut dans les ténèbres, suivi par le seul des routiers qui resta vivant. 6 cadavres gisaient pêle-mêle dans la salle basse. Le plancher ruisselait de sang comme les dalles d'une boucherie. Pèlerin, toujours étendu sur la table et tout saignant, semblait mort. La monstrueuse scène de carnage à laquelle nous venons de faire assister nos lecteurs, s'était passé en beaucoup moins de temps que nous n'en avons mis à la raconter. 2 minutes avaient suffi pour faire tant de morts avec tant de vivants. Il nous paraît à peu près inutile d'ajouter que ce nouveau venu, arrivé si providentiellement à l'aide du jeune homme aux cheveux noirs, n'était autre que ce voyageur avec lequel nous avons déjà fait connaissance dans l'auberge de Jacques Vernier et sur ses chemins perdus qui de Champagnol conduisaient à Longchaumois. Celui qu'il venait d'arracher à une mort certaine lui tendit la main et lui dit avec une admirable simplicité « Qui que vous soyez, messire, français ou franc-comtois, espagnol ou suédois, le capitaine Lacuzon vous appartient désormais à la vie, à la mort. » « Lacuzon ? » répéta le voyageur. « Vous êtes Lacuzon ? » ?»« Oui, messire. » « J'aurais dû m'en douter, » reprit l'inconnu en regardant les cadavres. Car quelle autre épée que l'épée de Lacuzon aurait frappé de pareils coups ? Puis il ajouta, « Ah, capitaine, c'est ma bonne étoile qui m'a fait vous rencontrer ici. » Lacuzon l'interrompit en riant. « Votre bonne étoile ? » répéta-t-il. « Et que dirais-je donc de la mienne ? Je crois d'ailleurs, messire, que nous devons avoir 2 étoiles jumelles, car certes, sans le secours de la vôtre, la mienne allait s'éteindre cette nuit. Mais je vous ai interrompu et je vous en demande pardon. » « Vous sembliez heureux de notre rencontre. Puis-je vous demander pourquoi ?»« J'ai affaire à vous, capitaine. »« À moi ?» s'écria Lacuzon avec une nuance d'étonnement. « J'allais vous chercher à Saint-Claude, où j'espérais, sinon vous trouver, du moins découvrir quelques moyens de me mettre en communication avec vous. »« Eh bien, messire, me voilà, et je n'ai pas besoin de vous répéter que je suis à vous. Tout à vous. »« Ce que j'ai à vous dire est long, capitaine, et l'endroit où nous sommes... » Vous le trouvez sinistre, n'est-ce pas? Ah, c'est une triste et hideuse guerre que celle dont voilà les résultats. Nous allons quitter cette maison qui est la mienne. Mais avant de m'éloigner, il me reste un terrible devoir à remplir. Sortez le premier, messire, je vous le conseille, car ce que je vais faire est un acte de justice, un acte nécessaire, mais qui vous paraîtrait féroce. Sortez, je vous en supplie. À quoi bon, capitaine? Un acte de vous, quel qu'il soit, peut m'étonner, mais je ne le blâmerai jamais. « Soit, messire, restez donc et soyez témoin de ce qui va se passer ici. Mais n'oubliez pas que j'ai entrepris une œuvre immense. N'oubliez pas que je marche à un but sacré. N'oubliez pas que la trahison seule pourrait entraver cette œuvre et renverser ce but, et que partout où je la rencontre sur mon passage, il me faut l'écraser sous mon talon ferré, sans faiblesse et sans pitié. Restez, messire, et ne vous étonnez point de me voir devenir tout à la fois le juge qui condamne, l'exécuteur qui frappe. Nous sommes dans un temps et dans un pays où la justice doit être sommaire, et la vie d'un homme est d'un faible poids dans la balance où se pèsent les destinées d'une province. » Ces paroles et l'étrange solennité avec laquelle elles furent prononcées excitèrent au plus haut point la curiosité du voyageur. Quelle était donc cette trahison que redoutait le capitaine? De quel acte d'effrayante justice voulait-il parler? À quel nouveau drame cette demeure ensanglantée allait-elle servir de théâtre? La réponse à ces questions ne se fit point attendre. L'accusant s'approcha de la table qui supportait le corps, ou peut-être le cadavre, du malheureux paysan martyrisé par les grilles de l'Espinassou. Il trancha d'un seul coup les liens à demi brisés qui retenaient ce corps, et le touchant légèrement du bout de son épée, il dit « Si tu es mort, tant mieux. Si tu es encore vivant, lève-toi. » Cette voix connue, la voix du maître, parut rendre à Pellerin l'usage de ses sens. Il fit un mouvement léger, ses paupières abaissées se soulevèrent, il reconnut l'accusant. Mais au lieu de la joie qui, selon toute vraisemblance, aurait dû se peindre sur son visage, en voyant qu'il n'était plus au pouvoir de ses bourreaux, ses traits exprimèrent une profonde terreur. Il se souleva par un effort désespéré, il descendit de cette table qui avait été pour lui un chevalet de torture, et il tomba à deux genoux devant l'accusant, en joignant les mains et en murmurant « Grâce, maître, au nom du Sauveur des hommes, au nom de la bonne Sainte Vierge Marie, pardonnez-moi, j'ai tant souffert. » « Tu as souffert, mais tu as trahi, » répondit le capitaine d'une voix lente et grave. « Rien n'excuse la trahison. »« Ô maître, si vous saviez... »« Eh bien, dis-moi ce que tu veux que je sache. Je suis ton juge, et comme juge, je dois écouter ta défense, si tu crois pouvoir te défendre. »« J'ai résisté tant que j'ai pu. Il fallait résister jusqu'à la mort. Ils m'ont déchiré les épaules avec leurs épées, et je n'ai pas parlé. » C'était ton devoir. Ils m'ont percé les bras avec leurs poignards, et je n'ai pas parlé. Et c'était encore ton devoir. Ils m'ont tailladé la poitrine avec leurs couteaux, et je n'ai pas parlé. Et c'était toujours ton devoir. Ils ont allumé du feu sous mes pieds, balbutia Pellerin. Et alors, il n'acheva pas. Et alors, continua le capitaine, et alors, tu allais parler. La force m'a manqué, maître. Je souffrais trop. Est-ce que les premiers chrétiens, lorsqu'on enduisait leurs corps de résine et de goudron pour en faire des torches vivantes, est-ce que les premiers chrétiens souffraient moins que toi? Répondit l'accusant. Et cependant, ils ne reniaient pas leur Dieu. Ils ne trahissaient pas leur foi. Est-ce que tu crois que les ardentes étreintes d'un bûcher m'auraient fait parler, moi? Est-ce que tu crois que j'aurais trahi? Non, maître. Oh non. Mais vous êtes fort, vous. Vous êtes courageux, tandis que toi tu es faible et lâche, acheva l'accusant. C'est bien là ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Pellerin baissa la tête sur sa poitrine déchirée. Je suis vieux, je suis chétif, dit-il d'une voix presque éteinte. Et c'est ainsi que tu te défends, s'écria le capitaine avec éclat. Et tu plaides en ce moment contre toi-même mieux que ne saurait le faire ton plus mortel ennemi. Vieux et chétif, dis-tu? Ainsi donc, c'est pour sauver les misérables débris de ta misérable vie? C'est pour traîner sur la terre pendant quelques jours encore ton corps débile et contrefait? C'est pour cela, et pour cela seulement, que tu allais livrer à l'Espinassou et à ses bandits les nobles existences de ceux qui sont les premiers parmi les défenseurs de notre sainte cause? Ainsi donc, si je n'étais pas venu, si j'avais tardé d'une heure, d'une demi-heure, de quelques minutes, le colonel Varose et le curé Marquis étaient perdus, et perdus par toi, car révéler en ce moment le secret de leur retraite, c'était les perdre. C'était les jeter au poignard de l'assassin, au couperet du bourreau. Voilà ce que tu aurais fait sans moi. Voilà quel est le crime dont je t'accuse et dont je te déclare convaincu. As-tu quelque chose à répondre ? Pellerin se roula au pied de l'accusant en murmurant des paroles indistinctes et entrecoupées, parmi lesquels revenait d'instant en instant ce mot « Grâce ». L'épouvante et le désespoir le rendaient fou. « Tu as trahi, » reprit le capitaine après un silence. « Tu es jugé, tu es condamné, tu vas mourir. » « Non, non, non !» s'écria Pellerin, à qui ces mots froidement prononcés rendirent pour quelques secondes une force fébrile. « Je ne veux pas, je ne veux pas mourir !» Il se releva et fit quelques pas dans la direction de la porte, comme pour s'enfuir. Mais ses jambes épuisées le trahirent. Il retomba, et tendant vers son maître ses mains suppliantes, il se mit à sangloter, en balbutiant.
« Grâce, grâce !»«
Tu vas mourir, » répéta le capitaine. « Recommande ton âme à Dieu. » Puis, se baissant à demi, il prit à la ceinture de l'un des cadavres un pistolet chargé, et avec ce pistolet, il cassa la tête de pèlerin. Le gentilhomme inconnu poussa un cri d'horreur et se détourna vivement. L'accusant vint à lui. « Je vous avais prévenu, » fit-il. « C'est affreux, mais c'est nécessaire. Que la trahison puisse se glisser parmi nous, et la cause de la Franche-Comté est perdue. Demain, quelques-uns de nos hommes viendront ici pour enterrer tous ces cadavres, parmi lesquels je les préviendrai qu'ils trouveront celui de pèlerin, tué par moi pour avoir trahi. Maintenant, messire, sortons de cette chambre, car j'ai hâte, comme vous, de me trouver hors de cette effroyable atmosphère de sang. Une fois dehors, je pense que rien ne vous empêchera de m'apprendre quels sont les motifs qui vous faisaient me venir chercher à Saint-Claude. « Rien, assurément, capitaine, » répondit l'inconnu, et ils quittèrent tous deux la sinistre demeure. Le médecin des pauvres, chapitre 6. Raoul. « Où donc est votre cheval ?» demanda l'accusant. « Je l'ai attaché par la bride à un tronc d'arbre, » répondit le voyageur. « Est-ce que vous êtes à pied, capitaine ?»« Non, mais mon cheval à moi n'a pas besoin d'être attaché. Vous allez voir. » L'accusant approcha de ses lèvres deux de ses doigts et fit entendre un sifflement doux et prolongé. Le bruit d'un galop rapide répondit aussitôt à ce sifflement, et une jument barbe d'une grande beauté vint piaffer auprès de son maître. « Quel admirable animal !» s'écria l'inconnu. « C'est un cadeau de Charles de Lorraine, » dit le capitaine en passant la main dans la crinière longue et soyeuse de la jument. « Elle me connaît, elle m'aime, elle obéit à mon appel et n'obéit qu'à moi. Elle marche d'un pas aussi ferme et aussi assuré sur la pente des montagnes réputées inaccessibles que sur le grand chemin le plus large et le mieux frayé. Elle m'a sauvé deux ou trois fois la vie par sa prodigieuse vitesse, en me faisant passer sain et sauf à travers des embuscades d'où jaillissait une grêle de balles. Enfin, elle est pour moi mieux qu'une monture, elle est une amie. » Le voyageur voulut caresser la jument comme avait fait le capitaine, mais elle se cabra furieusement avant même que la main de l'inconnu eût touché son encolure souple et hardie. Ses naseaux se gonflèrent et elle hennit avec une colère menaçante. « Prenez garde !» dit vivement l'accusant. « C'est un agneau pour moi, mais pour tous ceux qu'elle ne connaît pas, c'est un démon. Si nous restions quelque temps ensemble, elle s'accoutumerait à vous, et vous pourriez l'approcher sans crainte. « Maintenant, messire, allez prendre votre cheval et partons. Le temps se passe. Je suis attendu. Il faut que j'arrive. » Les deux hommes se mirent en selle. Pendant quelques minutes, ils marchèrent silencieusement l'un à côté de l'autre. L'inconnu subissait, sans chercher à s'y soustraire, le prestige rayonnant autour de ce beau jeune homme de 22 ans à peine, la plus grande renommée populaire de la montagne, le héros chevaleresque d'une guerre sainte. Il le voyait là, près de lui, simple et modeste, dans sa gloire qu'il semblait ignorer. Et cependant, il n'y avait pas un rocher, pas un vallon, pas un chalet dans la province qui ne retentît du nom de cet homme. 20 fois les armées coalisées de la France et de la Suède avaient lâché pied devant la bande de partisans commandée par ce chef héroïque qui, dans l'attaque, marchait le premier et le dernier dans la retraite. Contre le bouillant courage, contre l'infatigable persévérance de ce capitaine, les efforts du grand cardinal étaient venus se briser. Fidèle à la cause de l'Espagne, qui, pour lui, représentait la cause de la liberté, l'accusant défendait son pays pied à pied, montagne par montagne et rocher par rocher. Rien ne pouvait ni le lasser, ni le décourager, ni l'abattre. À lui seul, il était le résumé du vieil esprit d'indépendance qui coulait avec le vieux sang dans les veines de toute une population. Il était la personnification vivante et fière de l'antique liberté dont il arborait le dernier drapeau sur les pics neigeux de son pays natal. L'inconnu se disait tout cela, et l'accusant lui paraissait d'autant plus grand qu'il semblait moins se douter de sa propre grandeur. Est-il besoin de constater ici que presque toujours un orgueil fanfaron amoindrit ceux qu'il domine? S'il me fallait citer des exemples et des noms à l'appui de ce que j'avance, les exemples et les noms ne me manqueraient pas. Le capitaine fut le premier à rompre le silence. « Messire, dit-il, pardonnez-moi si je trouble la méditation qui vous absorbe, mais vous m'avez prévenu que vous vouliez me parler longuement, et nous ne tarderons guère à arriver dans un pays où le silence deviendra nécessaire, car chaque rocher, chaque buisson, chaque tronc de sapin pourra cacher un ennemi et par conséquent un danger. Ici, ce péril existe déjà sans doute, mais moins imminent. Parlez donc, messire, je suis prêt à vous entendre. Et l'homme qui m'a sauvé la vie peut compter sur moi, corps et âme, s'il y a quelque chose à me demander, et si cette chose dépend de moi. » « Capitaine, répondit l'inconnu d'une voix que l'émotion faisait visiblement trembler, ma situation est difficile et mon embarras est extrême. J'ai une question à vous adresser et j'ai un secret à vous apprendre. Je devrais, avant de vous rien demander, vous révéler ce secret qui est important, non seulement pour moi, mais aussi pour la cause que vous servez et que je veux servir. Mais le courage me manque et je ne puis attendre plus longtemps. D'ailleurs, de la réponse que vous allez me faire dépendra sans doute le parti que je vais prendre et qui décidera de mon avenir. » L'inconnu s'arrêta. « Vous m'étonnez et vous m'intriguez singulièrement, messire, » s'écria l'accusant. « Nous nous rencontrons aujourd'hui pour la première fois, et votre accent m'indique que vous n'êtes, selon toute apparence, ni franc-comtois ni espagnol. Comment donc puis-je à mon insu me trouver mêlé à votre vie, de telle façon qu'une parole de moi ait sur votre avenir une influence quelconque? Je ne le comprends pas. » « Capitaine, répondit l'inconnu, vous avez une cousine. »« Ah ! » fit l'accusant avec un si brusque tressaillement que sa main gauche raidit la bride qu'elle tenait et que sa jument fit un violent écart. « L'an passé, continua l'inconnu, trop ému lui-même pour remarquer cette émotion, l'an passé, votre cousine et son père habitaient une petite maison dans la forêt du Chaux, près de Dôle. Depuis lors, votre oncle, Pierre Prost, est revenu dans la montagne. Mais il est revenu seul. » Et l'on dit qu'Églantine est morte. Est-ce que cela est vrai, capitaine? Est-ce qu'Églantine a cessé de vivre? Quoique ces paroles eussent été prononcées d'une voix suppliante, l'accusant ne répondit pas tout d'abord. Il paraissait se consulter, et les rides de son front, ses sourcils noirs qui se rejoignaient dans une contraction douloureuse, semblaient indiquer qu'un violent combat se livrait en lui. « Messire, dit-il au bout d'un instant, et en interrogeant au lieu de répondre, « si ma cousine est morte, c'est un deuil de famille pour son père et pour moi, ses seuls parents. Que vous importe cela ?»« Mon Dieu !» murmura l'inconnu en portant ses deux mains à son visage pour le cacher et en s'efforçant, mais vainement, de comprimer un sanglot qui montait de son cœur à ses lèvres. « Elle est morte, je le vois bien !» L'accent désespéré avec lequel furent prononcés ces derniers mots fit tressaillir de nouveau le capitaine. « Vous la connaissiez donc ?» demanda-t-il vivement. « Ah ! » s'écria l'inconnu. « Si je la connaissais !»« Et peut-être vous l'aimiez ?»« Oh oui, oui, je l'aimais. Je l'aimais avec toute mon âme. Je l'aimais avec tout mon cœur, avec la fougue ardente d'un premier et d'un dernier amour. » « Et elle ?» balbutia l'accusant. « Elle, vous aimait-elle aussi ?»« Elle avait pour moi l'affection sainte d'une sœur, et je le crois aussi, la chaste tendresse d'une fiancée. » La tête du capitaine retomba sur sa poitrine. Deux grosses larmes coulèrent sur ses joues subitement pâlies, et pendant quelques secondes, cet homme si fort fut faible comme un enfant. C'est qu'une parole venait de déchirer à tout jamais le voile à travers lequel, jusqu'alors, il avait regardé l'avenir. C'est qu'une des grandes espérances de sa vie venait de s'écrouler. C'est qu'il lui fallait renverser une des deux idoles dont son cœur était le sanctuaire. L'accusant, jusqu'à ce jour et jusqu'à cette heure, avait fait deux parts de son âme. Il avait donné l'une, la première, la plus large, à sa déesse, l'indépendance. L'autre appartenait à Églantine. Il proclamait bien haut, il inscrivait sur son drapeau glorieux le premier de ses deux amours. Le second, au contraire, était enfermé par lui dans le mieux caché, dans le plus mystérieux des replis de son cœur. Mais bien souvent, il se disait, quand arrivera l'été de ma vie, quand j'aurai fait ma tâche, quand la comté libre et forte n'aura plus besoin de défenseurs, quand il ne me restera plus, ouvrier laborieux, qu'à réclamer mon salaire après ma journée finie, alors, redevenu le maître de moi-même, alors, ayant conquis le droit d'accrocher au foyer de ma maison mon épée victorieuse, alors, j'avouerai à Églantine mon amour si longtemps timide, et je lui offrirai cette main qui fut puissante et ce nom qui fut illustre. Alors, tous deux, près d'un berceau, nous oublierons le passé sanglant pour ne songer qu'au souriant avenir, représenté pour nous par les blondes têtes de nos petits-enfants endormis. Voilà ce que pensait l'accusant, tandis qu'il bondissait ainsi qu'un jeune tigre parmi les bataillons ennemis, fauchés par lui comme des épimures. Voilà dans quels horizons bucoliques se reposait son âme, tandis que son bras infatigable frappait de si terribles coups. Soudain, tout s'écroula. Églantine ne l'aimait pas. Églantine ne l'aimerait jamais. Églantine en aimait un autre. Le choc fut cruel et la blessure douloureuse. Nous avons vu couler deux larmes sur la joue pâlie du soldat. Mais l'accusant était un de ces hommes privilégiés, dont l'âme est au besoin d'acier comme le corps, et qui commandent à leur cœur d'être insensibles, comme à leurs nerfs d'être infatigables. « À toi, se dit-il tout bas, mais avec le sublime enthousiasme du sacrifice accompli, à toi, liberté sainte, à toi, désormais tout entier. » Les plis de son front s'effacèrent, ses sourcils contractés se disjoignirent, sa tête se releva, le sang circula comme de coutume sous les tissus de sa peau brunie. Le capitaine l'accusant était redevenu lui-même. « Messire, fit-il en se tournant vers l'inconnu, vous m'avez sauvé la vie, et ce serait payer bien mal la dette de reconnaissance contractée par moi envers vous que de prolonger plus longtemps votre erreur et votre chagrin. Églantine n'est pas morte. « Ah ! S'écria le jeune homme en saisissant avec une sorte de fiévreux délire la main du capitaine et en la pressant contre son cœur. « Je le savais bien, moi, que mes pressentiments ne me trompaient pas. Je savais bien que mon cœur se serait arrêté au moment où le cœur d'Églantine aurait cessé de battre. « Mais, reprit l'accusant, vous comprenez, messire, qu'après la confidence que vous venez de me faire, après vous avoir entendu me dire que vous aimiez Églantine et qu'Églantine vous aimait, j'ai le droit d'attendre de vous des aveux plus complets. J'ai le droit de vous demander qui vous êtes, quels sont vos désirs et aussi quelles sont vos espérances. Oui, certes, vous avez ce droit, capitaine, répondit vivement le jeune homme. Et je le sais si bien que j'aurais voulu vous parler de moi avant tout. Mais dans la terrible incertitude dont vous venez de me tirer, je n'en ai pas eu la force. Eh bien, messire, maintenant que vous êtes rassuré, j'attends. Je commence donc, fit l'inconnu. Et souvenez-vous, capitaine, que de tout ce que je vais vous dire, je puis aussi vous donner la preuve. Ne vous étonnez donc de rien, si surprenante que vous paraissent au premier abord les choses que je vais vous raconter. « Je suis bien jeune, répliqua l'accusant. Et cependant, depuis que j'ai l'âge de raison, depuis 2 ans surtout, j'ai vu se passer sous mes yeux tant de faits impossibles en apparence, qu'aujourd'hui, pour m'étonner, il faudrait un miracle. Et encore, en face de ce miracle, j'adorerais la toute-puissance de Dieu, mais ce serait sans surprise. Il y a quelques jours encore, commença l'inconnu, je m'appelais Raoul Clément, et j'étais lieutenant de cavalerie sous les ordres de Monsieur de Villeroy. « Français ! » s'écria l'accusant en fronçant involontairement le sourcil. « Vous êtes français ? » « Laissez-moi continuer, capitaine. Je vous ai dit ce que j'étais hier. Je vais vous dire ce que je serai demain. Demain, l'officier français Raoul Clément aura cessé d'exister, et le baron franc-comtois Raoul de Champdivers aura pris sa place. » En entendant prononcer ce nom, le capitaine arrêta brusquement son cheval, et il regarda avec une stupeur manifeste son compagnon, dont les rayons blancs de la pleine lune éclairaient la belle et noble figure, tout à la fois douce et mâle. « Raoul de Champdivers ? » répéta-t-il d'une voix émue. « Vous ? Mais c'est impossible ! La grande et forte race des Champdivers est éteinte, hélas ! Le dernier baron a péri il y a plus de 20 ans, avec son fils unique encore au berceau, sous les ruines fumantes de son manoir incendié. « Capitaine, répliqua le voyageur, que désormais nous appellerons Raoul. « Un miracle même, me disiez-vous tout à l'heure, vous surprendrez peu, et vous adoreriez avec calme la main toute-puissante de Dieu. Adorez donc, et ne vous étonnez pas. Ce miracle s'est fait pour moi. Je suis le fils unique du dernier baron de Champdivers. » « Messire, dit l'accusant en mettant la main sur l'épaule de son interlocuteur. Je vous supplie d'avance de me bien comprendre, de m'excuser et de ne rien voir d'offensant dans le doute que je manifeste. On ne déracine point tout d'un coup une croyance accréditée depuis longtemps, surtout lorsque la vraisemblance et les probabilités étayent cette croyance. Vous n'avez pas l'intention de m'abuser. Je le crois. J'en suis sûr. Mais n'a-t-on pu vous tromper vous-même? Comment auriez-vous été sauvé de ce grand désastre où périt le baron des Champs d'Hiver? Vous allez me dire, je le devine, qu'un serviteur fidèle a tout bravé pour vous arracher à l'incendie. Oui, l'intendant de mon père, un honnête homme qui s'appelait Marcel Clément et dont je me suis cru longtemps le fils. Que voyez-vous d'étonnant et d'impossible à cela, capitaine? Rien, assurément. La chose est même toute simple. Mais il y en a une autre qui l'est beaucoup moins. Laquelle? Celle-ci. Comment se fait-il que cet intendant dévoué, que cet honnête homme, que ce serviteur fidèle, après vous avoir enlevé, sans doute au péril de sa vie, du milieu des flammes qui dévoraient votre château, comment se fait-il qu'au lieu de crier bien haut « J'ai sauvé le dernier rejeton de la noble maison de Champs d'Hiver, j'ai sauvé l'héritier d'une fortune immense, le voici, qu'il vive pour garder et soutenir son rang parmi les grands barons franc-comtois. Vous êtes enseveli dans l'obscurité. Vous êtes élevé comme son fils. Vous avez fait porter son nom et qu'aujourd'hui seulement, après 20 ans passés, vous veniez réclamer le titre et l'héritage de vos ancêtres. Convenez-en, messire, tout cela paraît insensé. Et parmi ceux à qui vous diriez ces choses, vous trouverez difficilement, je le crains, des auditeurs faciles à convaincre. Capitaine, répondit Raoul, je comprends vos doutes, et bien loin de les trouver offensants, je les partagerai, si le vieux Marcel Clément, mon père adoptif, n'avait fait luire pour moi la lumière incontestable de l'évidence parmi les ténèbres amoncelées autour de mon berceau. Cette torche ardente de la vérité brillera bientôt pour vous comme pour moi. Et d'abord, un seul mot va vous expliquer bien des faits qui vous semblent inexplicables. Il fallait entourer mon existence d'un voile impénétrable pour me soustraire, moi, chétif enfant, à l'implacable haine d'un tout-puissant ennemi. Cette haine s'attachait à ma race tout entière. Cette haine s'était jurée d'éteindre mon nom et d'anéantir ma famille. L'incendie du château de Champs d'Hiver ne fut point un malheur, ce fut un crime. Mon père ne mourut pas victime d'un accident terrible. Mon père mourut assassiné. Assassiné ? Répéta l'accusant sans chercher à cacher son étonnement et son émotion. Oui, s'écria Raoul avec force, et tout à l'heure je vous dirai le nom de l'assassin. Mais il faut que vous connaissiez les motifs mystérieux du crime avant d'apprendre quel fut le criminel. Écoutez-moi donc, capitaine, et après m'avoir entendu, vous déciderez si je suis un vulgaire intrigant qui veut voler un nom ou si j'ai le droit de réclamer ma place au premier rang parmi mes pairs.